Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à Cuba. Le durcissement des sanctions américaines à l'encontre de la Havane est en train de générer une nouvelle période spéciale d'austérité dans l'île. Pénuries alimentaires et énergétiques ont fait leur retour. Riz, haricots, poulet, œufs ainsi que savon et pas de dentifrice sont rationnés. Conséquence de la volonté de Donald Trump de resserrer l'embargo américain sur Cuba dans l'objectif de renverser le régime de Nicolas Maduro au Venezuela. Le régime cubain a survécu à 6 décennies de sanctions américaines et il n'y a guère de raison de penser qu'il est aujourd'hui menacé. L'offensive de Donald Trump n'en intervient pas moins à un moment compliqué pour Cuba. La Havane qui est aussi le prétexte de la guerre économique déclenchée par Washington contre l'Union européenne. Regard avec nos invités, Jeannette Abel, spécialiste de Cuba à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Bonjour.
Bonjour.
Et Mathias Fekel, avocat, ancien ministre et bon connaisseur de Cuba. Bonjour.
Bonjour.
Cuba et le Venezuela sont aujourd'hui intimement liés dans la stratégie américaine, une stratégie d'ensemble. Comment voyez-vous les choses, Jeannette Abel?
Écoutez, on est confronté à une contre-offensive nord-américaine, celle de l'administration de Donald Trump sur le sous-continent latino-américain depuis maintenant 1 ou 2 ans. Ça n'a pas commencé seulement avec Cuba et le Venezuela. On a eu une véritable offensive judiciarisation des dirigeants de gouvernements progressistes, le plus évident étant le Brésil avec la présidence de Lula. Mais c'est une offensive régionale. Et dans le cadre de cette offensive régionale, Cuba et le Venezuela occupent une place particulière, parce que Cuba, depuis très longtemps, est dans l'œil du cyclone de l'administration américaine, quel que soit, je peux mettre Obama à part, mais les présidents. Et d'autre part, la crise au Venezuela a évidemment aiguisé tout cela. Et pour le président américain et tous ceux qui l'entourent, en particulier d'anciens exilés cubains ou descendants d'exilés cubains qui se trouvent en Floride, l'enjeu est double. Il est d'une part évidemment d'arrêter de me remettre en cause tout ce qui peut favoriser sur le plan régional une contestation de l'ordre américain. Il faut rappeler quand même que la Chine est de plus en plus présente et qu'on est dans un contexte de déclin de l'hégémonie nord-américaine et de montée au contraire de la présence chinoise. Donc ça c'est le premier enjeu qui a donné lieu à la réaffirmation par Mike Pompeo du fait que le sous-continent reste bien l'arrière-cour des États-Unis. Deuxième enjeu, c'est l'élection présidentielle. L'élection
en présidentielle, 2020 aux États-Unis.
Voilà, ouais, et avec la place très particulière de la Floride, qui est un État très important pour l'élection présidentielle américaine depuis de très nombreuses années.
Avec l'électorat latino-américain très puissant et très important, comme vous le disiez. Mathias Fekel, c'est toujours compliqué de faire des suppositions, mais tout de même, est-ce que on peut imaginer que sans la question du Venezuela, Washington aurait renforcé ses sanctions contre Cuba, où les choses sont vraiment, comme je le disais précédemment, intimement liées?
C'est difficile à dire, mais il me semble qu'il y a 2 grilles de lecture possibles. La première est internationale et la deuxième est nationale et américaine. International, c'est un peu un retour aux fondamentaux d'une certaine façon, d'une forme d'expansionnisme et d'hégémonisme, en tout cas de défense très agressive des intérêts nord-américains, états-uniens en Amérique latine. On l'a vu tout au long du 19e et du 20e siècle et jusqu'au Chili d'Allende, mais on pourrait multiplier dans tous les pays d'Amérique latine ce type de pratique de déstabilisation de gouvernement et en tout cas d'interventionnisme exacerbé dans les affaires intérieures de ces pays. Et la deuxième lecture que vous avez évoquée, Madame Abel, avant, c'est les intérêts électoraux du président Trump. Et je pense que c'est aujourd'hui la clé de lecture la plus pertinente. Et une bonne partie des décisions de politique intérieure comme de politique internationale, y compris de diplomatie économique, d'agressivité commerciale de Donald Trump aujourd'hui, peuvent à mon avis être analysées à cette aune-là. Il parle à son électorat, au cœur de son électorat, en l'occurrence aux exilés cubains, à Miami en Floride et ailleurs, avec leur puissance au Congrès. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une volonté de mobiliser, de surmobiliser le cœur de son électorat en vue des élections intermédiaires comme en vue de la présidentielle.
Jeannette Abel, les élections présidentielles américaines, c'est novembre 2020. Il reste encore du temps. Jusqu'où cette politique de renforcement et d'accroissement des sanctions à l'encontre de Cuba peut-elle aller?
L'accroissement des sanctions est spectaculaire. D'ailleurs, c'est très simple. ils font un calcul presque enfantin, j'allais dire. Le Venezuela est en crise très grave. Les livraisons de pétrole du Venezuela à Cuba sont un élément très, très important pour l'économie cubaine. Tout affaiblissement du Venezuela, ce qui est déjà très largement en cours, hein, parce que là aussi les sanctions sont gravissimes, affaiblit par contre-coup l'économie cubaine. La situation actuelle à Cuba est très difficile. On vient de prendre des mesures de rationnement supplémentaire, de rationnement alimentaire supplémentaire. Les gens, la population a peur de reconnaître quelque chose qui ressemble à ce qu'on a appelé la période spéciale en temps de paix après l'effondrement de l'Union soviétique au début des années 90. Et la gravité de cette situation pose un vrai problème, un problème d'autant plus grave aujourd'hui qu'il n'y a plus le leadership charismatique de Fidel Castro.
Avec M. Díaz-Canel.
Raúl Castro est quand même maintenant relativement à l'écart. Enfin, il est toujours là, mais la légitimité du pouvoir n'est plus la même. Il y a de nombreux exemples qui le montrent. Et donc, c'est un pouvoir quand même plus fragilisé. Et sur le plan économique, et sur le plan politique, et sur le plan générationnel, c'est presque une triple transition à cause des réformes en cours. Et donc, c'est la conjoncture idéale pour renforcer l'embargo et appliquer des sanctions beaucoup plus sévères.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer, Matthias Fekel, une sorte de rigidification du régime ? On a vu Raúl Castro sortir du bois récemment pour dire que oui, une période à nouveau s'ouvrait de difficultés pour Cuba. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Et on sent, il y a eu une manifestation récemment dans laquelle la police est intervenue de façon assez brutale. Rigidification du régime à venir ?
C'est le risque, bien sûr. C'est le risque d'ailleurs qu'on observe à chaque fois que dans le monde, un régime de sanctions mal conçu et inintelligemment appliqué vient frapper un pays. Un risque d'une part de durcissement du régime et d'autre part, paradoxalement, de mobilisation de la population autour du régime en question. Et à Cuba, ça a souvent été une rhétorique, pas totalement infondée d'ailleurs, de mettre les difficultés du pays sur le compte de l'action des États-Unis. Donc aujourd'hui, on risque clairement d'aller vers cela, ce qui est triste parce que, avec toutes les insuffisances, toutes les difficultés, toutes les imperfections, il y avait quand même, à la fin de la présidence Obama, la possibilité d'une autre voie, d'une ouverture plus forte, avec notamment sous l'impulsion de Mariela Castro, beaucoup d'ouverture sur les questions LGBT, sur c'est une forme d'ouverture sociétale. Je suis prudent parce que c'est évidemment un régime bien loin de nos conceptions sur beaucoup de sujets, mais il y avait quelque chose, il y avait l'idée encore présente de vouloir confier plus d'initiatives au secteur privé, avec toute l'entreprise individuelle, qui là encore sous des formes spécifiquement cubaines, mais quand même donner une forme de dynamisme. Il faut voir maintenant ce que ça va donner, mais il est vrai qu'en attaquant l'un des principaux partenaires aujourd'hui de Cuba, à savoir le Venezuela, et en même temps en faisant tout pour couper Cuba des autres partenaires possibles, on complique quand même singulièrement la situation. Quand vous voyez aujourd'hui la difficulté pour les entreprises européennes et françaises de commercer avec Cuba, de vouloir investir là-bas pour porter des projets dans toute une série de domaines, de touristiques, agroalimentaires, industriels, commerciaux, ça va avoir des effets, évidemment. Et la problématique des sanctions et de leur effet sur les investisseurs internationaux est déjà un sujet d'analyse juridique, diplomatique et politique majeur.
Alors justement, effectivement, depuis le 2 mai dernier, Jeannette Abel, en application du titre 3 de la loi Helms-Burton, qui est une vieille loi qui remonte à 1996, je parle sous votre contrôle, l'administration américaine peut désormais engager des poursuites judiciaires contre les sociétés étrangères, notamment françaises et européennes, particulièrement espagnol, à Cuba. Ça, c'est la guerre commerciale ouverte.
Tout à fait. Et une guerre commerciale qui ne respecte pas les règles du droit international. Alors, je voudrais dire qu'il y a eu un rapport, excellent rapport de l'Assemblée nationale à partir d'une mission qui a été effectuée par Pierre Lelouch et Karine Berger. Un rapport que vous trouverez sur Internet. Je fais un peu de pub pour le rapport, qui est un excellent rapport et qui montre justement comment le droit américain est utilisé de manière extraterritoriale et il est utilisé, et ça concerne pas seulement Cuba, c'est même actuellement dans l'actualité, concerne directement l'Iran par exemple, comment il est utilisé en fait pour sanctuariser les intérêts américains, pour bloquer les investissements étrangers pour protéger aussi l'hégémonie américaine dans le monde. Alors la loi Helms-Burton, qui date effectivement de 1996, avait donné lieu à un contentieux important avec l'Union européenne, puisque justement l'objectif pour les États-Unis, c'est que leurs investisseurs, les investisseurs états-uniens, à cause de l'embargo, ne peuvent pas investir à Cuba, notamment, mais ils veulent pas non plus que d'autres puissent le faire, en particulier les Européens. Et il y avait eu quand même un contentieux assez fort qui s'était traduit par le fait qu'un des titres de cette loi, je dis au passage que, comme l'avait dit le bâtonnier Pellet à l'époque, ce n'est même pas une loi, c'est un texte politique de 80 pages, mais ratifié, en tous les cas co-écrit par un représentant démocrate et un sénateur républicain, tous deux américains évidemment, et ce projet de loi avait une partie qui était consacrée, qui indiquait la possibilité du côté états-unien d'attaquer des sociétés étrangères, européennes, françaises, espagnoles, etc., au cas où elles investiraient dans des biens qui avaient été nationalisés au début de la Révolution par Fidel Castro.
En 59.
Voilà, alors c'est bien juste le mot qui est utilisé dans ce titre 3 est incroyable, parce que le mot anglais c'est trafic, et le mot français, qui veut dire que les investisseurs européens qui investissent par exemple à Cuba dans ces biens qui ont été nationalisés sont des trafiquants. Hein. Je colle littéralement à l'expression, au vocabulaire qui est utilisé. Alors, il y avait eu à ce moment-là une disposition, un waiver en anglais, résultat d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis, pour dire que tous les 6 mois, cette disposition, seulement cette disposition, ça changeait pas l'embargo ni les sanctions, mais cette disposition était levée, en tout cas renouvelée tous les 6 mois, de telle sorte que, eh bien, on ne puisse pas traduire devant les tribunaux américains les entreprises européennes, françaises, espagnoles, etc., qui investiraient à Cuba. C'est cela qui vient d'être maintenant changé, remodifié, et donc la disposition aujourd'hui est ramené à 30 jours, et de fait, cela signifie que les citoyens anciennement cubains, aujourd'hui américains, dont certains biens ont été nationalisés, mais quand ils ont été nationalisés, c'était cubain, c'est le droit d'un État de prendre des mesures de nationalisation, ces citoyens aujourd'hui américains ou exilés cubains ont le droit d'attaquer en justice aux États-Unis les entreprises françaises qui investissent sous prétexte que elles investissent dans ces biens qui ont été nationalisés. Donc ça a deux aspects, hein, je termine. Un aspect qui est l'aspect factuel, juridique, et puis un aspect qui est directement politique, qui est une dissuasion complète. Parce que, évidemment, si vous avez le choix entre investir à Cuba mais risquer de perdre tout ce que vous faites aux États-Unis, le choix est vite fait.
Mathias Fegel, la réactivation donc de ce titre 3, il a suscité de nombreuses réactions, en particulier de la part de l'Union européenne, qui est la première visée donc par cette loi extraterritoriale, l'Union européenne étant le premier partenaire commercial de Cuba. Que peuvent faire les 28 ?
Ils doivent s'emparer du sujet. L'excellent rapport de Karine Berger et Pierre Lelouch a été cité, donc le diagnostic est posé. C'est exactement d'ailleurs un travail exemplaire parlementaire, c'est un consensus bipartisan sur un sujet majeur. Maintenant, il faut mettre en place les outils européens pour agir contre cela. Alors, il n'y a pas d'IA qu'à Faucon, c'est compliqué, mais si l'Union européenne veut s'affirmer comme une vraie puissance sur la scène internationale, si elle veut peser dans le monde à la hauteur de ce qu'elle pèse dans sa réalité économique, il faut qu'elle s'affirme. Alors ça passe par plusieurs biais qui sont complémentaires. La première, c'est l'affirmation de l'euro comme monnaie de référence internationale. Ça permet d'éviter le dollar, donc il faut là-dessus être en mesure de libeller plus d'opérations en euros. Il faut que de grands acteurs privés aussi du commerce international, de grands acteurs européens puissent s'en emparer et eux-mêmes se demander s'il n'est pas plus pertinent de libeller un certain nombre de leurs opérations en euros. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être en mesure, à mon avis, d'élaborer notre propre régime de sanctions extraterritoriales. C'est pas du tout satisfaisant sur un plan intellectuel et conceptuel, parce que en termes de, comment dire, de philosophie du droit international, c'est pas plaisant. Mais enfin, quand vous avez une force de frappe aussi importante, il est obligatoire de pouvoir se doter d'instruments comparables pour la réciprocité. Ce que comprennent les grands États, c'est la réciprocité. Donc, quand on vous fait quelque chose, il faut être en mesure de rétorquer. Et franchement, quand vous voyez les sommes que cela fait rentrer dans les caisses du trésor public américain, c'est fou. C'est rien qu'une amende comme celle de la BNP, ce sont des milliards de dollars qui deviennent de l'argent public américain, en réalité, de l'argent européen devient de l'argent public américain, et vous permettent de baisser d'autant les impôts en ponctionnant les entreprises européennes de manière extraterritoriale. Donc c'est choquant, et en plus ça crée les conditions d'une concurrence totalement déloyale. Donc il faut vraiment être capable là-dessus d'y aller. Et puis ensuite, il faut se doter d'instruments. L'Union européenne a commencé à le faire pour l'Iran, avec une initiative franco-allemande que j'ai saluée, qui s'appelle Instex, qui pour l'instant semble démarrer timidement, on va dire les choses comme ça, mais il faut être capable d'aider les entreprises européennes, françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, etc., qui aujourd'hui ont peur d'investir et donc peuvent d'ailleurs surréagir et se dire il faut absolument plus rien faire. Il y a le phénomène de l'over-compliance, comme on dit, c'est-à-dire le zèle en réalité, la surréaction des acteurs, alors même que des opportunités continuent à exister. Et donc c'est en mobilisant tout ce panel d'outils économiques, diplomatiques, commerciaux, que l'Union européenne doit réagir, et en parlant fortement d'une seule voix, c'est la seule manière de se faire respecter.
Alors, ce que j'entends de ce que vous venez de dire, c'est que finalement, il n'y a peut-être pas nécessité que les 28 se mettent tous d'accord, 28 ou 27, on ne sait plus très bien en ce moment. Vous parliez d'une initiative franco-allemande sur la question iranienne, on peut peut-être imaginer une initiative franco-espagnole sur Cuba, étant donné l'importance de ces deux pays sur dans leur présence à Cuba, Jeannette Abel.
Oui, ce serait souhaitable, mais je ne suis pas très optimiste, parce que même le mécanisme que Mathias Fekel évoquait à l'instant, Instex, etc., tout cela est d'une efficacité assez limitée, hein, parce que derrière ça, il y a une question simple, les rapports de force. Et du point de vue des rapports de force, malheureusement, si ça n'est pas les 28 globalement, et si ce sont ou des entreprises individuelles, ou plus, même plusieurs entreprises, eh bien, hélas, l'efficacité de ces mécanismes n'est pas très importante. Hein. C'est no deal si, du côté états-unien. Et je trouve qu'il serait quand même très souhaitable que les mécanismes de blocage évoqués par Mathias Fekel puissent être enfin mis en place. Mais jusqu'à présent, ça n'est pas le cas vraiment.
Si on prend strictement Cuba et les États-Unis, vous avez un marché états-unien qui est 50 fois supérieur, donc la messe est dite, si j'ose dire. Mais on est sur des principes en réalité. Si l'Union européenne demain ne veut pas s'exposer à des sanctions extraterritoriales sur toute une série d'autres sujets, si elle ne veut pas progressivement être déstabilisée par des fonds spéculatifs venant aujourd'hui des États-Unis, venant demain peut-être d'Asie, etc., elle doit se doter d'outils qui lui permettent de répondre. Effectivement, si on regarde que Cuba, États-Unis, encore une fois, le sujet est réglé de fait par les rapports de force et par le réalisme. Mais si vous regardez tout ce qui peut demain déstabiliser l'Union européenne, les économies européennes, des pratiques financières comme le short-selling qui viennent déstabiliser des entreprises, l'extraterritorialité des sanctions, vous mettez tout cela bout à bout, vous avez un impact potentiellement extrêmement déstabilisateur sur des pépites économique, française et européenne. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut se doter d'outils, parce que c'est, en réalité, on parle d'Europe souveraine, d'Europe qui protège, mais ça ne se traduira que s'il y a une capacité de réponse. Sinon, les économies européennes seront demain la proie de prédateurs du monde entier qui, à coup de déloyauté, de sanctions extraterritoriales, de spéculation, etc., viendront s'attaquer à toute une série de nos secteurs économiques qui souvent sont stratégiques, ont des visions d'avenir, des stratégies de moyen et de long terme, mais qui, faute de réactivité, sont totalement exposés dans une concurrence mondiale qui, comme tout le monde sait, est féroce, et où les autres acteurs ont des stratégies et ont une agressivité extrême.
Donc nécessité pour l'Europe d'avoir elle aussi sa stratégie. Merci, c'est la fin de Géopolitique, un Géopolitique un peu écourté pour cause du palmarès du Festival de Cannes. Merci.
On s'incline devant le palmarès, merci à vous.
Merci à nos invités, Jeannette Abel, spécialiste de Cuba à l'Institut des Hautes Études d'Amérique Latine, Mathias Fekel, avocat, ancien ministre et bon connaisseur de Cuba. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Nathalie Laporte. Demain, place aux élections européennes. Je vous retrouve donc samedi prochain, nous parlerons de l'Inde. À très bientôt.